France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Et on démarre avec le duel entre la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Vous aimez la Loire, Natacha ?
Énormément, c'est un fleuve magnifique.
Le plus beau d'Europe, disiez-vous, juste avant que nous prenions l'antenne. Mais nous allons d'abord commencer par le duel et l'actualité politique de la semaine, c'était notamment ça.
La première exigence et ambition, je l'ai parfois d'ailleurs dit en ces termes, je vous le répète, plus de bleu sur le terrain. En sachant, là aussi, bousculer quelques tabous, quelques habitudes prises.
C'était le président de la République Emmanuel Macron à Roubaix en début de semaine. Du bleu dans les rues, sur le terrain, ce n'est pas la première fois qu'on entend l'expression. Le chef de l'État clôturait le Beauvau de la sécurité avec des annonces sur un thème qui sera peut-être l'un des sujets qui sera au cœur de la campagne présidentielle. Comment avez-vous reçu ces annonces, Natacha ?
Alors, on pourrait évidemment commenter point par point les annonces. Par exemple, celle qui a fait beaucoup parler, à savoir l'instance de contrôle parlementaire des forces de l'ordre qui semble dire que l'IGPN ne serait pas tout à fait indépendante. Et de fait, il y a eu des débats sur certaines enquêtes, notamment au moment des manifestations des gilets jaunes. Voilà, des décisions qui ont été un peu surprenantes. Mais je pense qu'avant de rentrer dans les détails, il faut d'abord voir un petit peu quel est le but politique que poursuit Emmanuel Macron. Puisque ce qui est intéressant, c'est d'abord qu'il se projette évidemment au-delà de 2022, puisqu'il annonce des choses qui ne seront même pas voté avant l'élection présidentielle.
Oui.
On peut aussi remarquer à quel point cette question de la sécurité fait l'objet d'une course à l'échalote qui commence à devenir extrêmement inquiétante, parce que ce ne sont pas ces annonces-là qui vont régler les problèmes que les Français peuvent avoir pour ce qui est de la sécurité, dans la mesure où, certes, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes. Le problème est en fait beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que c'est à la fois une question de rapports sociaux et une question de clivage idéologique, avec d'un côté ceux qui refusent d'admettre qu'il existe des violences policières, de l'autre ceux qui trouvent tout à fait normal de hurler et tout le monde déteste la police. Donc on a deux problèmes de fond qui relèvent de, on va dire, du contrat social, qui relèvent de la façon dont nous formons une communauté politique. Les réponses techniques n'y suffiront pas. Dernier point, ces réponses techniques oublient une chose, c'est que c'est l'ensemble de l'organisation de l'État et des tâches et de l'hyperinflation administrative qui explique aussi qu'il y ait moins de bleu dans les rues, pour reprendre cette expression un peu floue.
Alors justement, le président de la République s'est engagé, je le cite, à doubler sous 10 ans la présence de policiers et de gendarmes sur le terrain. Gilles.
Si on essaie de mettre en perspective ces déclarations, si on part de l'opinion, vous disiez tout à l'heure, Ali, c'est une des priorités des Français, c'est dans le pelon de tête des priorités, elle n'est pas écrasante comme en 2002, mais elle n'est pas secondaire comme dans d'autres campagnes, et elle a en plus une charge émotionnelle qui est si forte que elle occupe une place souvent plus importante que la réalité des priorités qu'elle est. Deuxième point, c'est que les Français ont confiance dans la police. 75% des Français disent avoir confiance dans la police. C'est une des institutions dans lesquelles les Français ont le plus confiance. Et sur ce sujet-là, et on en vient au but politique qu'évoquait Natacha, Emmanuel Macron est en défense. Il est en défense parce que sa crédibilité relative est plutôt modeste et parce qu'il est attaqué notamment par les candidats républicains dont les sympathisants font de la délinquance leur première priorité. C'est évidemment pas un hasard si Xavier Bertrand, dès le lendemain de l'intervention d'Emmanuel Macron, revient sur ce terrain-là. Dès lors, comment interpréter les annonces ? Il y a à la fois le moment de l'annonce, il semble enjamber l'élection présidentielle, mais c'est très frappant quand on regarde depuis la rentrée, Marseille, 3 milliards, Beauvau, 1 milliard et demi, le chèque énergie, la gratuité de la contraception jusqu'à 25 ans, les arrêtés sur la chasse aux oiseaux, la proposition de loi débattue sur l'interdiction des thérapies de conversion. On peut dire, c'est bien, ils gouvernent encore. On peut dire, ils sont en campagne déjà. Et ça jette évidemment un voile sur les annonces qui sont faites, le moment, d'autant plus que les principales mesures, non seulement ne seront pas appliquées pendant le quinquennat, mais ne seront même pas votées pendant ce quinquennat.
Et en l'occurrence, le budget 2022 de la sécurité, je l'indique, sera augmenté d'1,4 milliard d'euros, dont 500 millions pour la mise en œuvre des premières mesures du Beauvau de la sécurité. Et c'est donc
Évidemment, ça c'est une des mesures fortes, ça c'est une des mesures pour le coup immédiates. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont très utiles dans les budgets qui sont dégagés. De la même manière, l'allongement de la durée de formation, c'est bien aussi. Après, je trouve que c'est un peu mou sur le contrôle, et notamment l'institution du contrôle parlementaire, dont le principal objet est de ne pas rendre indépendante soit l'IGPN, soit le président de l'IGPN. Et c'est un peu flou sur ce par quoi on a commencé, c'est-à-dire le mettre du bleu sur le terrain. D'abord parce qu'on ne sait pas combien il y a de policiers sur le terrain. Et donc, doubler quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est difficile. Et que la simplification du code de procédure pénale, qui est un des moyens d'alléger les tâches des policiers pour qu'ils soient plus sur le terrain, là aussi, il faut aller un peu plus loin, dire qu'est-ce qu'on simplifie.
Natacha, encore un mot.
Juste un mot, on pourrait ajouter, mais on y revient toujours, que c'est dans l'articulation entre la police et la justice que tout cela se passe. Les frustrations viennent beaucoup de là. Ce qui a été annoncé est sur certains points insuffisants, parfois bien, mais ça ne permettra pas de répondre à cette impression d'impunité qui est en train de détruire le lien social. C'est un élément absolument essentiel et pour l'instant, on patine là-dessus.
Vous voulez rajouter un mot ?
Oui, juste une phrase. En réalité, ce que recherche Emmanuel Macron, même si évidemment il veut traiter le problème de fond, ce qu'il recherche, c'est ce que les stratèges appellent une neutralisation de la question, c'est-à-dire une triangulation. On va sur le terrain de ses adversaires pour essayer de le démonétiser.
Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Robert Schuman a dit « L'Europe a besoin d'une âme, d'un idéal et de la volonté politique de servir cet idéal. » Et au cours des 12 mois écoulés, l'Europe a fait de ces mots une réalité. Nous avons agi ensemble aussi, avec le Parlement, avec 27 États membres, comme une Europe unie. Je crois que nous pouvons en être fiers.
Les applaudissements étaient adressés à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Mercredi, elle s'adressait devant le Parlement de Strasbourg aux eurodéputés au cours de son discours sur l'état de l'Union. L'Union européenne a besoin d'une âme. Vous l'entendiez citer l'un des fondateurs du projet européen, Robert Schuman. Et Ursula von der Leyen se félicitait de la mobilisation de l'Union et des 27 pour traverser la crise du Covid, crise qui n'est toujours pas terminée. Elle esquissait aussi un projet européen de l'après-crise, une sorte de feuille de route où il était notamment question, parmi beaucoup de sujets, de construire une Europe plus souveraine, plus autonome en matière industrielle, plus forte en matière de défense aussi. Vous avez rejoint les applaudissements, Natacha ?
Disons que je resterai un tout petit peu plus perplexe. D'abord parce qu'il y a d'immenses contradictions entre les belles intentions annoncées par ce discours et la réalité du fonctionnement de l'Union européenne aujourd'hui. Avec en plus une forme d'autosatisfaction qui sur certains points relève quasiment du déni. Par exemple, quand Ursula von der Leyen nous explique que c'est formidable, que la croissance de l'Union européenne au deuxième trimestre est de 2,2% contre 1,3% pour la Chine, 1,6% pour les États-Unis, que donc nous sommes dans une sorte de moment de gloire de l'Union européenne. On va juste rappeler que la Chine et les États-Unis ont dépassé leur niveau de 2019, ce qui est loin d'être le cas de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup, et en fait je cite ça parce que c'est à l'image de tout ce discours qui oublie que l'Union européenne ne s'est pas vraiment dotée des moyens d'une relance suffisamment efficace. Quand on regarde, en fait, bon, c'est vrai que c'est énorme et qu'on a fait des pas. Nous avons commenté ici les emprunts conjoints, mais c'est pas
750 milliards d'euros.
Voilà, mais c'est pas parce qu'on appelle ça Next Generation EU que ça devient quelque chose de forcément formidable. En gros, la Chine et les États-Unis font à peu près à échelle comparable 5 fois plus. Les États-Unis ont en fait là sont en train de mettre en place une politique où ils lâchent un peu sur la maîtrise de l'inflation, ce qui va provoquer chez eux une relance quand nous voyons poindre dans le discours d'Ursula von der Leyen le retour des politiques austéritaires. Il y a donc un décalage énorme. Et quand je dis retour des politiques austéritaires, je pense par exemple à sa phrase « Nous nous attaquons aux problèmes structurels de notre économie, des réformes du marché du travail en Espagne, aux réformes des retraites en Slovénie, en passant par la réforme fiscale en Autriche. » Premier point, notre économie. Non, nos économies, et c'est bien le problème, ce sont des économies différentes. Et la Commission, donc, a décidé de s'attaquer à ce qui relève des modèles sociaux des différents pays. Il y a là une façon de prendre le problème qui me semble un tout petit peu particulière et qui fait qu'en fait, rien n'a changé.
Gilles Finkelstein.
Alors, ça fait maintenant 10 ans qu'il y a ce discours sur l'état de l'Union de la présidence de la Commission. Alors, on peut évidemment s'en gausser parce que la présidence de la Commission s'est un peu calqué sur, enfin, le discours sur l'état de l'Union est calqué sur les États-Unis. Sauf que le président de la Commission n'est pas le président des États-Unis et que le Parlement européen n'est pas le Congrès des États-Unis. Oui. Mais c'est un moment de démocratie et sans doute dans d'autres grands face-à-face, dans d'autres pays européens aujourd'hui, on débat du même sujet et donc ça contribue, et je crois que ça c'est positif, à la constitution d'un espace public européen, c'est-à-dire qu'on parle au même moment des mêmes problèmes. Une fois qu'on a dit ça, le discours d'Ursula von der Leyen se passe non pas dans un moment de gloire, ça évidemment pas, comme le disait Natacha, mais quand même dans une embellie ou dans une éclaircie européenne. C'est vrai de la situation sanitaire ou de la situation économique, mais c'est vrai du rapport des Européens à l'Union européenne. Quand vous mettez ça en perspective, on retrouve en gros les niveaux de confiance dans l'Union européenne, les niveaux d'optimisme sur l'avenir de l'Union européenne qui étaient ceux d'il y a 10 ans ou d'il y a 15 ans. Je vous en donne juste deux chiffres qui m'ont frappé, puisque l'enquête, l'Eurobaromètre, réalisée dans les 27 pays, a été publiée cette semaine.
Oui.
66% des Européens sont optimistes sur l'avenir de l'Union et 80% sont favorables à l'euro. Les Français sont à peu près dans la moyenne des Européens, un peu en dessous. Mais voilà, ça c'est des chiffres qu'on ne connaissait pas. Et même sur la gestion de la crise sanitaire, on a désormais, ce qui n'était pas évident, hein, on a désormais une majorité absolue d'Européens qui se disent satisfaits de la gestion de la crise par l'Europe. Bon, donc il y a cette embellie-là. Et puis il y a, Natacha l'a dit, quand même une grosse difficulté pour ce discours, c'est que les éléments les plus structurants, la relance commune, le pacte vert, ont déjà été énoncés, ont déjà été arrêtés dans le courant de l'année dernière. Et donc, il n'y avait quand même pas grand-chose de très nouveau. Après, je crois qu'il y avait quand même une sorte de volontarisme européen ou de volonté européenne un peu plus forte que ce qu'on voyait par le passé. C'est vrai sur les questions de défense, c'est vrai sur les questions d'industrie avec les semi-conducteurs, c'est vrai sur la lutte contre l'évasion fiscale, c'est vrai sur les Ouïghours, on l'a peu souligné, le combat de Raphaël Glucksmann, avec quand même, dans ce cas je ne rejoins pas là jusqu'au bout la perplexité de Natacha, mais des impasses, impasses sur la politique d'asile. Je crois que c'est très important que, avant qu'une nouvelle crise ne survienne, et elle surviendra, et on la sent poindre avec l'Afghanistan, qu'on tire les leçons de ce qui s'est passé en 2015 pour mettre vraiment en place une politique européenne d'asile. Et enfin, dernier point, il y a une impasse sur la réforme de la gouvernance économique de l'Europe. Les critères de Maastricht sont morts. Quelles sont les nouvelles règles qu'on se donne?
Ça, mais vous c'est n'avez aussi pas répondu à Natacha, le rôle de la Commission voyait poindre de s'atteler l'austérité.
Mais je ne sais pas sur quoi Natacha s'appuie. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons plus de règles communes et que ces règles communes, il faut les rebâtir. Faute de quoi, si on ne les rebâtissait pas, alors là, peut-être que Natacha aurait raison, et ben la tentation de revenir aux règles anciennes serait forte. Et il est sûr que cette tentation existe dans un certain nombre de pays.
Natacha Polony.
Premier point, vous avez tout à fait raison sur la question, enfin sur l'impasse sur le droit d'asile, c'est en effet une des urgences. J'ajouterais que les grands discours sur l'indépendance industrielle, de défense, etc., c'est formidable. Concrètement, nous sommes dans une période où la Commission vient d'annoncer que les obligations vertes ne prendraient pas en compte le nucléaire. C'est un revers majeur pour la France qui met en danger l'industrie nucléaire. On va voir ce que ça va donner dans les négociations sur la taxonomie. Mais déjà, on voit là, une fois de plus, l'influence de l'Allemagne qui a réussi à faire valoir son point de vue et ses intérêts contre la filière nucléaire française. Nous venons d'avoir l'annonce de la rupture par les États-Unis du contrat de sous-marin avec la France. Là aussi, la question de savoir s'il y a... la rupture du contrat entre la France et c'est l'Australie, pardon.
Au profit des Américains,
avec le soutien des Britanniques, qui nous font payer notre énergie dans l'application du Brexit. Et il y a là un enjeu aussi extrêmement important pour l'Union européenne, la question de savoir si nous avons une vision commune de ces questions-là. Et pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Et la France est extrêmement isolée sur la question de son industrie de défense, comme sur la question de la défense européenne. Donc en fait, le discours d'Ursula von der Leyen passe sur les problèmes comme l'eau sur les plumes du canard.
Alors, avant de passer au prochain sujet. Juste un mot. Sur la défense, je trouve que c'est évidemment un sujet qui est un sujet très difficile parce que la culture, l'histoire des pays de l'Union européenne est très différente dans leur rapport au monde. Malgré tout, ce qui s'est passé en Afghanistan est plutôt un élément qui vient conforter les chances de constitution d'une défense européenne parce que tous les Européens se sont aperçus que une opération qui était conduite par l'OTAN était en réalité une opération qui était conduite par les États-Unis seuls, sans jamais consulter les Américains et sans, on peut le craindre, tenir compte des intérêts des Européens le jour où ceci serait menacé.
Oui, mais le coup de force de Joe Biden, là, est une façon de dire aux Européens, vous êtes avec moi ou contre moi. Et la France risque de se retrouver isolée, il va y avoir un travail absolument énorme, mais c'est pas dit du tout que l'Allemagne choisisse les intérêts européens plutôt que les intérêts américains.
Le grand face-à-face, le duel.
Aujourd'hui, en France, le salaire d'un prof, en début de carrière comme en fin de carrière, est deux fois moins élevé que celui qu'il pourrait avoir en Allemagne ou aux Pays-Bas. Ça n'est pas normal. Il y a des fonctions essentielles dans la société. Celle de l'éducation et celle de la santé. Hein, ce sont deux piliers. Et on maltraite les gens qui sont chargés de ces missions essentielles.
Vous avez reconnu la voix d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, désormais candidate à l'élection présidentielle. Elle était l'invitée de France Inter lundi dernier. Doubler le salaire des enseignants, des personnels soignants, ce sont quelques-unes des propositions phares de son début de campagne. Utopique pour certains, pas chiffré pour d'autres, indispensable pour les troisièmes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Les questions de financement de ces mesures ou l'intention de faire de ces missions essentielles à la société française une vraie priorité à la fois de la campagne et du quinquennat à venir, Gilles?
Alors, ce que je retiens, d'abord, si on essaie de quand même de se mettre là aussi en perspective par rapport à la situation qui prévalait en 2017. En 2017, le Parti Socialiste était à deux doigts de la disparition. Il a conforté son assise locale avec les élections municipales et régionales et il assume une présence nationale avec cette candidature d'Anne Hidalgo. Je dois dire que la pré-campagne d'Anne Hidalgo avant l'été et a été difficile parce que il n'y avait pas d'arrêt et donc on a peu entendu ce qu'elle disait. Là, le lancement de sa campagne, je trouve, est plutôt réussi. Au-delà du fait qu'elle s'est remis dans une position de synthèse entre le social et l'écologie qu'elle peut incarner, et je crois qu'elle a intérêt à incarner, au-delà de ce qu'elle a proposé en termes d'organisation qui est intéressant, qui est de s'appuyer sur les maires, les jeunes maires qui ont été souvent élus ou réélus ces dernières années. Je pense à la maire de Nantes, Johanna Roland, au maire de Nancy, Mathieu Klein, ou au maire de Montpellier, Michael Delafosse. Au-delà de ça, il y a deux choses qui m'ont intéressé.
Oui.
La première, c'est l'insistance sur la question du respect, de la considération. Ça fait écho à ce que Pierre Rosanvallon vient d'écrire, ça fait écho à ce que Agathe Cagé nous avait dit quand on l'avait reçu ici l'année dernière, et ça fait fortement écho à ce que moi j'ai lu cet été. Il y a 10 000 Français qui ont, du panel électoral, qui ont répondu à la question de savoir dans quelle société ils voulaient vivre, et cette question du respect, de la considération, de relations apaisées ressortait de manière très forte. Donc là, je trouve qu'il y a une intuition qui est très juste. Et puis la deuxième chose, je viens cette fois-ci directement à votre question, je trouve que Anne Hidalgo a réussi à faire l'agenda, c'est-à-dire à mettre sur la table un sujet dont pendant plusieurs jours, et j'espère au-delà de plusieurs jours, nous allons débattre. Ça change du débat sur les prénoms, ça change sur beaucoup de débats qu'on a depuis de nombreuses semaines. Et donc ça, je trouve que c'est un élément qui est positif. Je vois que ça fait sourire Natacha, mais oui. Natacha, qui est passionnée par les questions d'éducation, devrait s'en réjouir aussi.
Je me réjouis qu'on parle enfin de questions d'éducation. En plus, pour le coup, je pense avoir plusieurs fois, depuis que nous faisons cette émission ensemble, expliqué à quel point je pensais que la question de la rémunération des enseignants était centrale. Donc, je ne pleurerai pas le fait qu'on en parle enfin. Mais en revanche, il y a la manière d'en parler. C'est-à-dire que je pense que Anne Hidalgo répète une erreur profonde du Parti Socialiste depuis déjà plusieurs années, qui est de chercher à draguer un électorat qui autrefois était acquis, plutôt que de penser les problèmes. François Hollande avait fait rigoureusement la même chose avec les 60 000 postes dans l'éducation nationale, hein, pas 60 000 postes de profs, ça c'était le grand malentendu avec les enseignants. C'est-à-dire qu'en fait, on lance une annonce spectaculaire et derrière, il n'y a pas la moindre réflexion. Et en fait, c'est ça qui me frappe dans la proposition d'Anne
Hidalgo.
Quand
vous parlez de réflexion, c'est mais, de c'est-à-dire chiffrage que... ou même
non,
de ce qu'on va
pas
de... faire
non,
de
je suis
ces
pas sur le chiffrage, parce que je pense que la rémunération, la hausse de salaire des enseignants doit être une cause nationale dans la mesure où ils sont sous-payés et le savoir doit être mis au centre. En revanche, ce qui est indispensable, c'est de réfléchir au métier, c'est de réfléchir à l'ensemble des éléments qui vont permettre aux professeurs de progresser, de se sentir mieux, de se sentir plus libre. Il y a des tas de chantiers à mettre en place. La question de la progression par points, ensuite de des mutations, la question de l'organisation des établissements. Il y a des choses à inventer, pour explorer. Je ne suis pas une adepte de l'autonomie des établissements, toutes ces choses-là. Et pour autant, je me demande si je n'ai pas tort de ne pas être davantage pour ça. Je me dis qu'il y a peut-être, en tout cas, un débat à faire sur l'organisation du système. Se contenter d'une annonce qui va faire plaisir aux enseignants pour capter leur vote me semble d'une pauvreté absolument scandaleuse.
Gilles,
en réalité, vous approuvez ce qui a été dit ? C'est-à-dire, vous approuvez l'augmentation...
Mais ça fait des années
attendez,
que je dis
Attendez, vous approuvez l'augmentation du traitement des enseignants qui, de fait, quand on le compare à celui des autres pays, est en dessous, et que ça dit des choses sur la hiérarchie des fonctions dans une société, le traitement, donc... Vous approuvez ce qui a été dit, mais vous faites un procès sur ce qui n'a pas été dit.
Et parce donc, que ça là, ne peut pas être découpé.
Donc, laissons cette question-là ouverte. On est au début d'une pré-campagne présidentielle. La question du chiffrage aussi devra se poser, mais au-delà même, la question de la réflexion globale sur l'avenir du système scolaire. Donc,
Gilles, les pays qui ont davantage payé leurs enseignants l'ont fait parce que, justement, ils avaient réfléchi à l'organisation du système. Et on ne pourra pas augmenter de façon substantielle les enseignants, si on ne repense
eh bien,
pas
profitons du fait
système.
Que le débat soit sur la table pour tirer ce fil-là et aller jusqu'au bout.
C'est passionnant en tout cas, et c'est vrai que ça permet de passer à d'autres sujets dans cette campagne présidentielle que ceux qui, en général, occupent le devant de la scène. Tout de suite, le débat avec notre invité, l'écrivain Camille de Toledo.